La table de Clémence. Bien chers auditeurs de RCF Puy-de-Dôme, vous me voyez ravie, comblée de vous retrouver pour partager ensemble un joli moment autour de ma table, la table de Clémence sur RCF Puy-de-Dôme. C'est quand même un beau présage pour une émission de cuisine, mais pas que, de démarrer le jour de la fête de la gastronomie. Ah, vous l'ignoriez ? Eh bien, sachez que le 23 septembre, on fêtera désormais, non pas le retour de la table de Clémence, mais l'entrée du repas gastronomique à la française au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ça en ravit certains, ça en énerve d'autres. En tout cas, c'est l'occasion de parler terroir, tradition et tournemain. Sur ce, nous allons attaquer guillerettement par une visite à la fromagerie Nivesse. On sortira ensuite les agendas et nous retrouverons une invitée surprise qu'au moins une de mes amies attend avec impatience. Ben oui, je l'ai mise dans la confidence. Ça vous va? Alors c'est parti. La table de Clémence. Eh bien, bonjour Olivier Nivesse, vous nous faites le plaisir de nous accueillir aujourd'hui pour la table de Clémence dans votre fromagerie où ça fleure bon, c'est un véritable bonheur. Donc Olivier Nivesse, on ne vous présente plus, vous êtes le maître incontesté de la place du marché Saint-Pierre, mais comment devient-on comme ça du jour au lendemain le seigneur du marché Saint-Pierre ?
Alors ça s'est pas fait vraiment du jour au lendemain, ça a pris du temps. Ça a pris du temps déjà pour moi de formation, d'apprentissage, et puis après de prendre le temps de faire découvrir aux gens les produits, et puis petit à petit les séduire sur la qualité des produits fermiers et les produits au lait cru qui sont au magasin.
Vous avez fait un apprentissage, c'est pas uniquement sur le terrain, ça s'est passé où cette formation ?
Alors si, ça s'est quasiment passé que sur le terrain, puisque ça s'est passé en fait à Pau, chez un affineur, qui est donc Monsieur Bachelet, qui était maître affineur sur la région paloise, et donc qui m'a bien voulu m'accueillir chez lui, me montrer toutes ses techniques de travail. Et on a complété ça par des cours par correspondance d'industrie laitière, pour que j'ai la base technique et de fabrication, de maîtrise des produits. Et puis après, par des stages dans diverses entreprises maximum, chez des copains à lui, chez des producteurs, pour voir... comment ça se passait, pour toucher un peu les fromages et puis apprendre.
Alors, comment affine-t-on un fromage ? C'est quoi votre recette du succès ?
Alors, il n'y a pas tellement de recettes, à part, j'allais dire, vivre le fromage, mais parce qu'en fonction des fromages, on a des manipulations différentes. Ça peut être simplement les retourner, ça peut être les brosser, ça peut être les laver au vin blanc, ça peut être les laver au mar, ça peut... simplement les suivre et puis regarder qu'ils avancent bien doucement en fonction de la température, en fonction de l'hygrométrie, en fonction de leur positionnement dans la cave, puisque tout ça va jouer dessus, et puis être attentif à leur évolution.
Vous leur parlez à l'oreille, vous les caressez dans le sens du poil, un vrai bonheur quoi, vous et puis vos comparses en plus.
Oui, on s'en occupe tout le temps, donc Karine et Séverine sont, et puis Julien aussi, qui s'occupent aussi des produits, puisqu'en fait c'est intéressant, moi je veux absolument qu'on passe partout pour pouvoir vendre les produits, il faut qu'on les ait un peu maîtrisés en cave, et puis comprendre un petit peu comment ils évoluent, comprendre leur goût et leur saveur, comment elles évoluent, et pouvoir justement en parler, donc on fait un peu tous le tour, et puis j'essaye de leur montrer un peu comment apporter les fromages à maturation le plus logiquement, le plus beau possible, je sais pas, c'est pas très le mot français, mais en fait c'est ça, c'est vraiment apporter le fromage à sa qualité optimum.
Votre plus belle réussite au niveau des fromages ?
J'en ai pas. Non, j'en ai pas, j'ai...
Celui que vous affectionnez le plus.
Non, ça serait délicat, et puis c'est trop sectaire, parce qu'il y a quand même tellement de variétés, et puis tellement de familles différentes. Maintenant, après... moi, j'ai un principe de m'amuser beaucoup dans mon travail d'affinage, de faire mes petites expériences. Et la plus étrange et puis la plus tordue, mais qui à la fois donne la satisfaction de travail pour moi personnellement, en tout cas, c'est sur des amis du Chambertin, des fromages de Bourgogne à croûte lavée, qu'on fait un affinage un peu particulier, qu'on va volontairement faire durer plus longtemps que normal et puis volontairement faire sécher un petit peu, mais pour lui donner une texture de pâte un peu particulière. qui n'est pas sa pâte d'origine, qui n'est pas sa texture qu'il devrait avoir normalement en dégustation, mais qui, pour moi, me satisfait pleinement.
C'est quoi vache, chèvre? C'est quoi le nom exactement?
Amélie Chambartin, c'est un fromage de vache qui vient de Bourgogne, qui est un cousin de l'époisse, mais qui, à mon sens, s'affine beaucoup mieux, parce qu'on peut justement s'amuser un petit peu dessus.
D'accord. Et vous les stockez où, tous ces fromages-là? Vous avez une cave énorme derrière, ou alors elles sont cachées sous la cathédrale?
Non, j'ai malheureusement pas de cave sous la cathédrale, parce que j'ai pas eu accès à ça, puisque je suis arrivé quand même sur une période où on n'accédait pas forcément aux caves déjà en place. Donc non, moi j'ai deux caves derrière qui sont pas très grandes, mais dont on a un rangement efficace, ça c'est important pour nous, qui sont en parois non naturelles, mais on rattrape le phénomène en travaillant uniquement sur la paille, sur des planches en bois, et puis avec un système d'hygrométrie et de contrôle du froid en fait.
Vous avez aussi énormément de bouteilles de vin qui ont l'air très sympathiques. Alors une association fromage-vin à tomber par terre?
Ça c'est délicat, ça. C'est toujours délicat parce que le fromage est tellement variable en fonction des saisons. Moi une que j'aime beaucoup.
Tout de suite.
Ouais, bah là, celle qui me viendrait à l'idée, ça serait comme ça. C'est une que j'aime bien, c'est Salers et vin rouge de Marcillac, donc ça c'est assez surprenant mais c'est sympa. Voilà, après ça peut être camembert et cidre, c'est toujours très beau et personne n'ose le faire mais c'est toujours intéressant. Et voilà.
Très bien. Eh bien, merci Olivier Nives de nous avoir répondu à toutes ces questions sur la table de Clémence pour RCF Puy-de-Dôme. Et puis, si vraiment vous n'avez jamais passé la porte de ce magasin ou si vous vivez enfermé chez vous, je vous conseille fortement de venir vous rendre visite sur la place du marché Saint-Pierre.
Ben, merci à vous. Et puis oui, soyez les bienvenus, sachant qu'on fait aussi... tous les vendredis soirs, des petits apéros au fromage, donc qui permettent un peu de déguster des produits en toute simplicité.
La table de Clémence. Parce que la cuisine, en plus de la faire, j'adore en entendre parler et j'adore encore plus la déguster par écrit, je me suis dit que pour cette deuxième saison de la table de Clémence, ce serait pas mal, vous me donnerez votre avis plus tard, de vous faire rencontrer des hommes et des femmes comme vous et moi qui se sont appropriés la toile pour y distiller de charmantes recettes de leur cru. Vous l'avez deviné, on va parler blog de cuisine. Si vous n'avez jamais allumé votre ordinateur pour piocher une idée recette qui change un peu, je vous conseille vivement de commencer par celui de Cléa, que j'ai le grand honneur d'interviewer aujourd'hui pour vous sur RCF Puy-de-Dôme. Alors bonjour Cléa.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur du blog Cléa Cuisine. Vous collaborez à l'écriture de plusieurs sites comme Marmiton et Satoris ou le magazine de Terre Vivante Les 4 saisons du jardinier. Vous avez aussi et surtout publié plusieurs ouvrages aux éditions de La Plage, Agar Agar, Quinoa, Cuisine et les ingrédients japonais, Petit Chef Bio, sur lequel j'ai craqué la dernière fois dans ma librairie préférée. Et en plus de tout ça, vous venez de sortir un énorme pavé de recettes veggie que pour l'instant je n'ai vu qu'en photo mais qui me met déjà l'eau à la bouche. Alors première chose, comment en êtes-vous venue à bloguer ?
Par hasard, c'était il y a 6 ans, donc à l'époque les blogs venaient tout juste de commencer à se faire connaître et moi je vivais au Japon à l'époque. Donc je traînais beaucoup sur Internet pour trouver des recettes de cuisine parce que je n'avais pas emmené mes précieux livres avec moi. Donc j'en suis arrivée à tomber sur les tout premiers blogs de cuisine en français. Il y en avait une petite poignée à l'époque et j'ai trouvé ça tellement sympa que je me suis dit que créer le mien, ça pouvait me permettre de communiquer avec ces gens-là qui avaient l'air vraiment... vraiment plein d'idées et sympathiques. Et donc, j'avais effectivement des recettes du Japon à proposer, ce qui, à l'époque, sur Internet, n'était pas très facile à trouver en français. Donc, ça a rendu service à pas mal de gens. Et du coup, c'est comme ça que ça a pris. Mmh. Voilà, donc un peu par hasard, pour voir comment ça marchait.
Très bien. Et si c'est pas trop indiscret, qu'est-ce que vous faisiez de beau au Japon ?
Je travaillais, j'ai passé 2 fois 1 an au Japon, une année pour mes études et une année pour travailler dans une université. Enfin, c'était surtout pour vivre un peu au Japon, en fait.
D'accord. Et les ingrédients japonais vous ont beaucoup inspiré ?
Oui, mais c'est vrai que je les connaissais déjà un petit peu avant, parce que c'est des ingrédients qu'on trouve assez facilement dans les magasins bio que j'avais déjà l'habitude de fréquenter. Donc, je savais déjà faire les sushis avec les algues nori, qui sont très pratiques. Et puis, je connaissais déjà, par exemple, l'agar-agar, qui est une petite algue qui permet de gélifier les préparations, de faire tout plein de petits desserts et petites entrées, petites verrines, etc. Donc, j'ai été assez inspirée, oui, par les ingrédients japonais, la cuisine japonaise. Donc, sur place, effectivement, il y avait tout le nécessaire sous la main pour entretenir un bloc de cuisine assez gourmand.
Et pourquoi votre orientation vers le bio ?
Ah, ça, c'est familial. C'est une orientation que j'ai prise, enfin que j'ai toujours eue, parce que ma mère cuisinait, était très branchée bio, légumes du jardin, des petits producteurs du coin. On n'a jamais été végétarien à la maison, mais on consommait pas énormément de viande, donc plutôt des préparations à base de légumes, de végétaux. Mm-hmm. Donc ça a toujours été mon inspiration. J'ai pas eu besoin de chercher beaucoup, en fait.
Pour les légumes, c'est uniquement bio, c'est local, c'est comment vous considérez les choses ?
Pour moi je me fournis dans un magasin bio, mais j'ai aussi des connaissances de petits producteurs locaux pour lesquels, qui sont pas forcément certifiés bio, hein, parce que c'est pas, on court pas après les étiquettes, mais pour lesquels je sais qu'ils ne traitent pas ou très peu et ou qui sont en conversion vers le bio, donc c'est souvent des légumes qui sont moins chers que les légumes bio, mais qui sont presque tout aussi irréprochables.
Qu'est-ce que vous a apporté votre blog Cléa Cuisine ?
Oui, c'est vrai que ça m'a permis, l'évidence, de publier des livres de cuisine, mais avant tout, je pense de rencontrer vraiment toute une série de passionnés. Ça a commencé par les autres personnes qui avaient des blogs de cuisine à l'époque, puisqu'on n'était pas si nombreux, même si nombreuses, puisqu'on était exclusivement des femmes. Donc je me suis vraiment fait des amis, là depuis 6 ans, qui sont des amis très proches maintenant. Et puis le fait simplement d'être contacté par les lecteurs qui nous racontent un petit peu où ils en sont, pourquoi ils sont sur le blog, qu'est-ce que ça leur apporte. Je me rends compte qu'il y a des personnes qui me disent qu'elles sont revenues à la cuisine, que ça leur a donné à nouveau envie de cuisiner ou envie de s'y intéresser tout court, et que ça leur convient bien du coup de savoir cuisiner, de cuisiner un peu plus sainement peut-être pour certaines, de se faire plaisir à nouveau pour des personnes qui étaient éloignées de tout ça. Donc ça, c'est très très enrichissant, parce qu'on se rend compte qu'on apporte énormément aux gens. Donc voilà, c'est essentiellement ça.
C'est super. En plus, vous êtes rentrée en France à Grenoble, c'est ça ? Vous aviez déjà un réseau créé ?
Oui, c'est ça. C'est vrai que j'ai remporté le blog avec moi depuis le Japon et j'ai continué sur ma lancée. Donc, moins de recettes japonaises, mais plus de recettes bio, comme j'avais l'habitude déjà d'en faire avant.
En bref, de quels ingrédients vous ne pourriez pas vous passer ?
Bon, il y en a beaucoup, mais j'ai une petite addiction pour la purée d'amandes. C'est des amandes qui sont débarrassées de leur peau et qui sont broyées à basse température. Et ça donne quelque chose de très crémeux. On pourrait comparer ça à une célèbre pâte à tartiner, mais qui serait exclusivement à base d'amandes, donc blanche, crémeuse, et non sucrée, puisqu'il n'y a pas de sucre dedans. Donc moi, je l'utilise pour remplacer le beurre dans les pâtisseries, les gâteaux, les pâtes à tarte, les pâtes à biscuits, par exemple. Et puis en même quantité, alors ça dépend un petit peu de la recette, des fois selon la texture qu'on veut retrouver, on peut mettre aussi un petit peu d'huile pour compenser le fait que la purée est assez crémeuse, ça va pas faire comme du beurre fondu. Donc on peut mettre moitié huile, moitié purée d'amande pour remplacer du beurre fondu par exemple. Et puis je l'utilise aussi par exemple dans une sauce béchamel, ou bien pour remplacer de la mayonnaise, on peut mettre un peu de moutarde et un peu d'huile avec, et ça fait une petite mayonnaise végétale.
Super.
Donc voilà, ça c'est un ingrédient fétiche. Et puis je suis très attachée au fait que d'utiliser des aliments complets, donc des farines complètes, qui soient pas des aliments raffinés. J'achète pas de sucre blanc, j'achète du sucre blond mais qui n'a pas été raffiné, ou du sucre complet. Et puis j'aime
en
beaucoup
vrac.
Par exemple. J'aime beaucoup les alternatives végétales aux produits laitiers, par exemple le lait de riz, le lait d'amande, la crème de soja pour la cuisine. Je trouve que c'est plus léger, puis ça permet de varier aussi les saveurs.
Très bien. Des recettes pour nous donner envie de vous lire ?
Y a une recette qui a beaucoup de succès sur mon blog, c'est assez drôle. C'est une recette de gâteau citron-amande, donc justement avec de la purée d'amande pour remplacer le beurre, et puis des amandes moulues, du citron en zeste et en jus, donc ça donne quelque chose de très fondant, très citronné. Et apparemment très addictif, parce que j'ai beaucoup de gens qui ont fait cette recette et elle a beaucoup plu.
Une musique qui vous donne envie de cuisiner?
Alors j'écoute pas beaucoup la musique en cuisinant, mais j'écoute beaucoup la radio. J'aime bien écouter des émissions où on parle, comme là maintenant.
Un texte qui vous met l'eau à la bouche?
Peut-être pas de texte en particulier, mais c'est vrai que tous les livres de cuisine, en général, j'évite de les mettre sur ma table de chevet, puisque ça m'empêche de dormir. Ça donne plutôt envie de se précipiter en cuisine. Là, dernièrement, j'ai lu le dernier livre de Jamie Oliver, et je trouve que je découvre un petit peu cet auteur, et je trouve qu'il a vraiment beaucoup de talent pour décomplexer la cuisine et s'adresser de manière très... très claire et très gourmande à ses lecteurs, donc c'est un régal à lire.
Je viens manger chez vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous me préparez?
Alors aujourd'hui, aujourd'hui on est en train de préparer des petites briques aux blettes avec de la feta et des épices à l'intérieur, donc des petites briques croustillantes. Et puis en dessert, on a fait hier soir avec ma fille qui a 2 ans une mousse au chocolat, en fait toute simple, il suffit de faire fondre du chocolat et de mixer ça avec du tofu soyeux, qui est un tofu pas trop ferme. Donc après, on laisse reposer ça toute une nuit et ça fait des mousses qui se tiennent bien le lendemain. Donc voilà, des petites mousses bien aériennes et elle adore ça, donc... Voilà, c'est le menu du jour.
Bon, ça va, je prends le train pour Grenoble.
C'est bon.
Ça fait maintenant 6 ans que vous bloguez. Pas de lassitude, toujours la même passion?
Non, pas de lassitude. Besoin de vacances régulièrement, parce que c'est une activité comme une autre. Donc voilà, de temps en temps, je fais une petite coupure comme pendant l'été pour faire un peu autre chose que la cuisine. Mais je me force pas à poster tel jour à telle heure. Je poste quand j'en ai envie et quand j'ai quelque chose à dire. Donc voilà, si je me fais pas plaisir, je le fais pas. Donc ça reste un plaisir.
Merci 1000 fois, Cléa, d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous.
Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Cléa sur cleacuisine.fr et surtout dans les bonnes librairies, magasins bio et nature et découverte, avec son livre Veggie aux éditions La Plage, pour tout savoir sur les alternatives végétariennes et apprendre à utiliser tous ces produits qu'on n'ose pas forcément acheter.
La table de Clémence.
Sortez maintenant les crayons pour noter quelques rendez-vous gourmands. On commence samedi 24 septembre. Au choix, demain, aujourd'hui ou hier, selon le moment auquel vous m'écoutez. Avec une balade cueillette champignons et cuisine sauvage au cœur des hautes chaumes du Forez, autour de la jasserie du Coq Noir. Pour ceux qui, comme moi, désespèrent un jour de trouver des champignons et surtout de les reconnaître, et pour les amateurs d'ateliers cuisine, ça commence à 9h du matin et il faut réserver au 04 73 95 47 06. Je vous rappelle que le cycle d'initiation à l'œnologie démarre le samedi 1er octobre avec Philippe Gallon à Montpérou pour apprendre à déguster en toute connaissance de cause et avec modération, bien sûr. Le samedi suivant, le 8 octobre, partez en stage sur les chemins des Combrailles avec Guy Lallière, botaniste qui vous fait découvrir les simples qui se mangent. Pour davantage de renseignements, téléphonez au 04 73 86 91 95. Autre choix pour ce 8 octobre, partez sur les pas de Madeleine à la découverte de Champé, l'oreille tendue pour écouter des textes et recettes gourmandes d'une auvergnate du temps passé. C'est gratuit, mais il faut réserver auprès de Nota Bene au 04 73 96 74 17. Dimanche 9 octobre, c'est l'incontournable foire à la pomme à Ludès. Le week-end suivant, samedi 15 octobre, a lieu à Tauve une journée spéciale du potager à la soupe de légumes. Le programme est très alléchant. Troc-plantes et exposition de légumes insolites, concours de soupe, spectacle du conteur Robert Amiot, la dent du loup. Alors, si vous voulez participer au concours ou vous inscrire au repas qui suivra, appelez le 04 73 21 18 57. Pour réserver pour le spectacle, c'est le 04 73 21 79 78. Après cela, vient la semaine du goût au manoir de Végou. Pour l'occasion, auront lieu des ateliers cuisine. Le mercredi 19 octobre à 14h ou à 16h pour les enfants de 7 à 14 ans, préparation de cupcakes et de smoothies aux couleurs de la République avec une nutritionniste. Le vendredi 21 octobre, pour les adultes, cet atelier cuisine auvergnate rapide et équilibrée aux mêmes horaires. Enfin, pendant cette semaine du goût, le jeudi 20 octobre se tiendra le deuxième apérislo de l'association Slow Food au bistrot du marché, au marché Saint-Pierre. Seront mis à l'honneur cette fois-ci les produits portugais, ambiance conviviale et gourmande assurée. Retrouvez tous ces rendez-vous et d'autres encore sur mon blog envisedelices.canalblog.com. Cherchez la table de Clémence et vous trouverez. La table de Clémence.